Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans Priorité Santé pour une nouvelle fois vous permettre de poser toutes vos questions, des questions de femmes à un médecin spécialiste du corps féminin, de son intimité, de la grossesse comme de ce qui se passe après la naissance. Un soignant qui bien sûr ausculte, observe, prescrit, mais aussi écoute, accompagne et conseille, parce que le gynécologue comme la sage-femme ont un rôle essentiel pour la santé sexuelle, la contraception comme le dépistage des différents troubles ou maladies qui peuvent affecter le corps des femmes, provoquer des douleurs, un inconfort ou évoluer à bas bruit. Au cœur de la consultation, au-delà de la compétence, c'est un lien de confiance qui s'établit, confidentialité, compréhension, pédagogie. Vos questions à un gynécologue, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Et ce spécialiste à l'écoute des auditrices de Priorité Santé, règles, infections, procréation, contraception, c'est vous, docteur Abdoulaye Diop.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar au Sénégal et vous avez signé, docteur, le livre « Si l'on parlait de gynécologie et d'obstétrique » aux éditions La Qualita. On vous retrouve dans les studios de RFI Dakar en full day et mandinquant et on remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Docteur Diop, la consultation chez le ou la gynécologue, la visite d'une sage-femme. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre pratique, vous avez le sentiment que cette démarche reste liée à des symptômes, à un problème, une douleur, ou les femmes y vont aussi pour de la prévention?
Malheureusement, le plus gros lot de femmes que nous recevons en consultation viennent quand elles ont déjà des problèmes, soit des douleurs, soit des sécrétions, des pertes, soit des problèmes pour enfanter ou des saignements qui est le premier motif de consultation. Il est exceptionnel, il est rare même de voir des personnes qui vont venir de manière préventive pour juste un check-up, pour justement faire en sorte que de ne pas arriver au stade de pathologie. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs, pour la plupart des femmes, le premier contact avec le gynécologue, c'est souvent pendant la grossesse. Ce qui est quand même un peu dommage.
Est-ce que c'est vrai pour les différentes générations? Vous observez finalement assez peu de consultations de jeunes femmes ou de jeunes filles. Mais après, justement, après le bébé, il y a un peu plus un rendez-vous avec le gynécologue qui s'instaure.
Oui, les choses évoluent avec les réseaux sociaux, avec toute la communication qu'on fait au niveau des réseaux sociaux et avec Internet. De temps en temps, nous recevons des jeunes filles qui veulent venir juste pour des conseils par rapport à leur santé reproductive, leur santé sexuelle, ou alors qu'elles n'ont pas de problème. Nous recevons aussi de temps en temps des couples qui viennent pour une consultation prénuptiale avant un mariage, etc. Et là, après que la connexion soit faite, le suivi est en général plus régulier lorsqu'on indique à la femme ou au couple la nécessité de venir en consultation plus souvent et sans attendre qu'il y ait d'abord une pathologie avant de venir.
Précisément, au sujet des réseaux sociaux, s'il y a vraiment un sujet qui est de plus en plus abordé sur les différentes applications, docteur Diop, ce sont bien les menstruations. Pour autant, au-delà de l'affichage, est-ce que vous avez le sentiment que le tabou lié aux règles est en train de s'effriter ou pas vraiment?
Oui, le tabou lié aux règles est en train de diminuer un peu. On en parle de plus en plus. Les réseaux sociaux sont un formidable outil de diffusion de l'information, de partage d'expériences. Il y a du bon comme il y a du moins bon, malheureusement. Mais ça a permis un peu de délier les langues, ça a permis un peu de donner la parole aux gens. Et contrairement à ce qui s'est passé avant les réseaux sociaux, où l'information, c'est les parents qui devaient donner, et parfois ils avaient un peu de mal à parler de ces sujets à leurs enfants, maintenant l'information est plutôt accessible sur les réseaux sociaux, et c'est une bonne chose.
Alors, besoin malgré tout de renseignements sur les menstruations. Illustration avec plusieurs messages Facebook. On a d'abord Armanda de Lomé, qui explique que lorsqu'elle était adolescente à l'approche des règles, elle avait tendance à devenir irritable, fatiguée, également davantage de ballonnements. Ensuite, elle a compris qu'il s'agissait d'un syndrome prémenstruel. Elle s'interroge, docteur Abdoulaye Diop, sur l'origine de ces symptômes. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Le syndrome prémenstruel, c'est effectivement cet ensemble de signes que les patientes ressentent un peu à quelques jours de l'arrivée des règles, dont on ne connaît pas exactement la cause, souvent lié à un déficit en oligo-éléments ou en magnésium dans le sang chez la femme, ou souvent dû à des perturbations hormonales, à la variation des hormones au sein de la femme juste avant les règles. On n'en connaît pas la cause. On peut proposer des solutions de temps en temps, telles que du magnésium, une psychothérapie, du calcium, de l'acide folique. et donner des médicaments antidouleurs s'il y a des douleurs associées. Mais on n'en connaît vraiment pas la cause.
Alors, autre question simple et importante, c'est Raïssa du Cameroun qui la pose là encore sur Facebook. Au bout de combien de temps après une grossesse doivent revenir les règles? Est-ce qu'il y a une seule réponse?
C'est assez variable. Le temps à partir duquel les règles doivent venir après une grossesse est très variable. Après une grossesse, durant les 40 premiers jours, c'est les suites de couches. Donc, en théorie, c'est les louchis qui coulent, il n'y a pas de règles. À partir du 40e jour, les règles peuvent revenir. Cependant, il y a d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte, notamment l'allaitement. Si on allaite, et si c'est un allaitement qui a tendance à être un allaitement exclusif au sein, les règles peuvent rester jusqu'à 6 mois, voire 2 ans avant de revenir. Maintenant, tout dépend des femmes. Certaines vont avoir leurs règles très vite dès le 40e jour, malgré un allaitement, alors que d'autres vont avoir ce que nous appelons une aménorrhée de nourrice qui peut durer jusqu'à 2 ans.
Alors, preuve qu'il faut vraiment informer sur ce sujet. Autre question, Nina du Cameroun. Est-ce normal pour une fille de 12 ans d'avoir des pertes comme au début des règles, mais que cela ne dure qu'une demi-journée, docteur Diop?
À 12 ans, oui. Des pertes, toutes les femmes ont des pertes, que ce soit des bébés, que ce soit des jeunes filles, des adolescents, des personnes âgées, même après le ménopause, on peut avoir des pertes. À 12 ans, le système génital n'est pas encore très, très mature. Il apprend un peu à se mettre en place. Et les pertes ne sont que le produit de nettoyage des parties intimes, le produit de nettoyage du vagin. Et donc, on peut en avoir, à condition qu'il n'y en ait pas beaucoup, qu'il n'y ait pas de démangeaison, qu'il n'y ait pas d'odeur, qu'il n'y ait pas de douleur associée.
Tout de suite, nos premiers témoignages. C'est le moment de notre palabre au féminin, enregistré cette semaine au sein de la maison apaisante Iggy Kali à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. Sur place, l'association Icambéré propose un accompagnement à des femmes en situation de précarité qui souffrent de maladies chroniques. Alors, elles sont 6 autour du micro de Charlie Dupio, Alice, Mia, Pascaline, Ouria, Lila, Fatoumata, toutes ont la soixantaine et c'est Alice qui entame la discussion.
Moi, personnellement, j'ai une gynécologue parce que ma pathologie m'oblige vraiment à aller voir régulièrement une gynécologue. Parce que le diabète affaiblit l'organisme et on a souvent des infections. Donc il faut toujours aller voir une gynécologue pour faire des examens au niveau du sexe, au niveau du vagin, excusez-moi, au moins une fois par an. Et moi, j'ai été hospitalisée à 2 reprises en 2020, en 2022, parce que, il faut que je vous dise la vérité, j'avais eu des infections. Et c'était d'abord des infections au niveau même des urines, et puis ensuite même au niveau même vaginal. Voilà. Donc tout ça là, bon, la gynécologue a détecté ça et on m'a mis sous traitement. Et c'est passé.
Et moi aussi, c'est mon médecin qui m'a dit qu'il faut aller faire le bilan chez le gynécologue. C'est depuis 2022. Je me suis allée et puis j'ai fait, il n'y a rien. Avec les mains comme ça, comme ça, comme ça, il touche fort.
Il masse, il palpe les seins.
Oui, 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 pour chercher le cancer. Ça fait mal, mais ça va. Hein. C'est pour ma santé, oui, l'essentiel. Pour chercher les maladies, s'il y en a, on va me traiter et puis c'est bon.
Moi, c'est un rendez-vous médical comme tout autre, puisque je suis femme, j'ai fait 5 enfants. Donc, quand on est enceinte ou bien quand on n'a pas, on doit aller accoucher. Écoutez, on se met nu devant le médecin. Pourquoi avoir honte? Donc, moi, mon avis, personnellement, il n'y a pas de souci.
Moi, je sais que ça aurait été un homme, c'est un petit peu plus difficile. Mais à partir du moment qu'on sait prendre une femme, eh ben, elle est faite comme nous, puis c'est pour notre bien.
Vous avez une gynécologue qui est une femme?
Oui.
Et vous auriez plus de difficultés avec un gynécologue homme?
Oui.
Moi, je n'ai pas honte parce que là, les 5 enfants que j'ai eus là, c'est un homme qui était mon gynécologue, tout et tout, et il n'y a pas de problème. Je vais là-bas, il me dit, ah, vous êtes venu? J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Déshabillez-vous, je me déshabille, et puis il fait la consultation. Oui, je n'ai pas à avoir honte.
Même si c'est homme, c'est femme, c'est bon. C'est la même chose.
De préférence, je préfère une femme, mais s'il n'y a pas... Il n'y a pas de souci. Et j'ai fait, il n'y a pas longtemps, il y a un an et demi, j'ai fait un frottis. Un contrôle.
Pour voir si on n'a pas le cancer au niveau de l'utérus.
Et vous en avez fait aussi des frottis déjà?
Moi, personnellement, j'ai peur de ça. Il faut dire la vérité, je n'ai pas encore fait. Parce que ça fait mal, donc moi, j'ai peur.
Non. Ça fait pas mal, non, non.
Moi, je n'ai pas encore essayé.
Moi, je l'ai fait. Oui, je le fais ça qui 2 ans ou 3 ans. Je prends rendez-vous, je faisais encore.
Et alors, est-ce que ça fait mal?
Un peu, c'est vrai, parce que, ouais, ils vont tirer le liquide.
Moi, j'ai fait chez une sage-femme, ça va.
Sincèrement, il faut dire la vérité, je fuis. Quand on me parle de ça, je dis, je reviens, je ne vais pas.
Il y a pas mal. Alice, il y a pas mal.
C'est la peur.
Oui, c'est bon.
C'est la peur. Ça ne fait rien, tu peux aller faire ça.
Tu sentis un petit peu, c'est oui. Tout. C'est accoussement, c'est mal plus que les frottis.
Oui. Ça fait plus mal que les frottis.
Oui. Les enfants en bas, c'est beaucoup douleur plus que les frottis. Ah. Ouais.
Oui, j'ai eu 5 enfants, mais cet examen-là, je n'ai pas encore fait. Parce, pourquoi j'ai peur? Mon gynécologue m'a dit, en tout cas, vous allez sentir un peu de douleur. J'ai dit, bon, je reviens. Et je ne suis plus revenue. Et
même nous, ils ont dit, mais on fait quand même. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, moi, je vais faire.
De douleur, j'ai dit, ah non, non, non. Non, mais le fait même que le médecin, elle-même, elle m'a dit, elle est gynécologue, elle me dit que vous allez sentir un peu de douleur.
Et quand vous la voyez chaque année, elle retente de vous proposer le frottis?
Oui, elle me propose. Là, elle m'a appelé pour que je vienne. Je dis, j'arrive. Je vais essayer, mais je n'ai pas encore eu le courage d'aller. Je vais essayer.
Il faut prendre du courage. Ouais, il faut y aller, hein. C'est mieux pour ta santé.
Alors ça, c'est vraiment de la palabre au féminin, docteur Abdoulaye Diop. On a entendu parler de pudeur, on a entendu parler de peur. Mais au bout du compte, le mot de la fin, il faut y aller.
Il faut y aller, exactement. La consultation gynécologique est un peu différente des autres spécialités parce qu'elle touche un peu à l'intimité. Il faudrait beaucoup de tact, beaucoup de douceur, gérer la pudeur de la patiente, sa sensibilité pour son bien. Mais c'est obligatoire, c'est vraiment indispensable.
On entend aussi que le rôle du gynécologue, parce qu'on l'a dit en présentant un petit peu ce reportage de Charlie Dupiot, c'était des femmes de 60 ans. Donc retourner, consulter, c'est essentiel, y compris après l'arrêt des règles, au moment et dans les années qui vont suivre la ménopause.
Oui, à tout âge de la vie, on doit avoir un gynécologue. Surtout qu'après cette ménopause, c'est la période de prédilection, de l'apparition de certaines pathologies cancéreuses, notamment le cancer du col de l'utérus ou le cancer du sein. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a plus de règles qu'il ne faut plus aller chez le gynécologue. Sans compter d'autres désagréments liés à la vie sexuelle après la ménopause, tels que la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur. Et le gynécologue peut aider à améliorer la qualité de vie de la patiente.
Alors on va partir maintenant, si vous le voulez bien, pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Karine. Karine, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors Karine, vous avez 35 ans et vous êtes actuellement enceinte. Vous êtes à quel terme?
Je suis au début du grade 2. Donc on va dire fin déjà du premier trimestre.
D'accord.
Début second trimestre.
Alors ce n'est pas votre premier bébé, hein, Karine?
Non, c'est le troisième.
D'accord. 4e mois de grossesse et vous êtes concernée par des fibromes. Depuis combien de temps, Karine, le gynécologue a-t-il constaté que vous aviez des fibromes?
Alors, je ne savais pas que j'avais des fibromes avant de contracter ma première grossesse. Et c'est lors de l'échographie que j'ai su que j'avais des... Je savais que c'était les myomes et tout ça, mais que j'ai su que j'en avais lors de la première grossesse. Et ça va même casser l'existence du premier bébé.
Ça a porté préjudice à cette grossesse donc. Est-ce que la situation, elle a évolué sur ce plan dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de myomes qu'auparavant?
Oui. La toute première fois, j'avais constaté que j'en avais 3. Il y en avait un qui était plus volumineux que les 2 autres. À la 2e grossesse, c'était pareil. Et là, maintenant, on va dire que ça fait quoi? 4 ans et demi d'espace entre les grossesses. Et là, à la dernière échographie, je me rends compte que j'en ai 5.
Vous en avez 5. Alors, quelles sont les questions sur ces fibromes ou myomes, hein, parce qu'on peut employer les 2 mots, que vous souhaitez poser à notre invité?
Alors, moi, j'aimerais savoir bien que les myomes que j'ai ne sont pas douloureux. Pourquoi, au lieu de se résorber, ils ne sont même pas restés au même nombre, mais j'en ai eu plus qu'auparavant? Parce que là, ça veut dire que si à chaque fois, je dois en avoir comme ça, je vais me retrouver avec une dizaine de myomes à l'intérieur de mon ventre.
Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète aujourd'hui, Karine?
Le gynécologue, à la dernière consultation, m'a dit que les myomes que j'avais ne gênaient pas véritablement le développement du foetus.
D'accord.
Fort heureusement. D'accord. Mais ça créait une gêne parce que bon, ça donne un petit bidon quand même.
Donc, docteur Abdoulaye Diop, sur l'évolution du nombre de fibromes que présente donc notre auditrice d'Abidjan, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Oui, c'est assez fréquemment comme ça. Les fibromes ont tendance à augmenter, soit en nombre, soit en volume. On peut avoir au début un fibrome, deux, ensuite avec le temps, trois, quatre, cinq, six, jusqu'à une vingtaine, une trentaine de fibromes même, allant de la taille d'un grain de riz à la taille d'une orange. Donc, c'est dans l'évolution naturelle des fibromes, que soit de grandir ou de se multiplier, malheureusement.
Karine, est-ce qu'on vous a proposé, par exemple, de recourir à une chirurgie ?
J'en avais parlé avec le gynécologue et il m'avait dit que ça n'en valait pas vraiment la peine tant que je n'avais pas encore décidé de ne plus avoir d'enfant.
D'accord.
Et que si je décidais de ne plus avoir d'enfant, que je pouvais avoir recours à une opération. Mais si pour le moment ça ne faisait pas partie de mes objectifs, il fallait mieux attendre que ça se fasse avant d'avoir recours à cela.
Donc cette deuxième question, donc docteur Diop, sur un recours éventuel à la chirurgie, dans quel cas est-ce que c'est préconisé ?
La chirurgie des fibromes n'est préconisée que dans 5% des cas. Ce sont les fibromes qui sont extrêmement volumineux, qui sont extrêmement douloureux, ou bien qui gênent des organes de voisinage, ou bien qui entraînent des fausses couches, ou bien des saignements que l'on ne peut pas arrêter. Dans ce cas, le traitement, il est chirurgical. Mais dans 95% des cas, les fibromes ne gênent pas, ni la conception, ni la grossesse, ni l'accouchement. Donc, il faut juste les surveiller et ne pas avoir au traitement chirurgical, parce qu'ils auront tendance à récidiver. Lorsqu'on enlève des fibromes, au bout de 2, 3, 4 ans, ils ont tendance à récidiver, à revenir. Et donc, on ne peut pas passer notre temps à opérer, surtout si le fibrome ne pose pas de problème.
Un grand merci à Karine, en tout cas, pour son appel d'Abidjan. Nos auditrices sont aussi, vous le savez, les programmatrices tous les vendredis. Et c'est Rose, à qui on va donner la parole tout à l'heure pendant l'émission, qui a choisi de partager avec nous ce titre de Libyanka, People, dans Priorité Santé.
For the past 5 days, did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody we know the paranoia, oh. 'Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, buried, I am inside my grave, inside my grave. 'Cause you see people, 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 people don't really know you. They don't really know you. 'Cause you see people, 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 they don't really know you. They don't really know. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? They make you not leave me deep, boy. Holy Father, yeah. Oh, make you drive on the star. Yeah, who can know that for you? 'Cause you see people, 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 people don't really know you. They don't really know you. 'Cause you see.
Priorité Santé sur RFI, émission Question de femmes, question à un gynécologue et notre spécialiste, toujours avec nous dans les studios de RFI en full day et Mandincan, c'est le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue de Dakar. Et c'est aussi au Sénégal qu'on va maintenant entrer en contact avec Fama. Fama, bonjour.
Bonjour.
Alors Fama, vous êtes âgée de 30 ans, un mariage tout récent. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de nous appeler aujourd'hui.
En fait, je me suis mariée en octobre et par la suite, j'ai eu des douleurs au bas-ventre. Avant d'aller à l'hôpital, j'ai fait un test de grossesse. Mmh. Quand j'ai fait le test est avéré négatif. Arrivé à l'hôpital, j'ai refait le même test et ça est positif. Le médecin m'a dit d'aller faire un échographe. Je l'ai fait et il est avéré que j'ai un kyste. Et après, je suis allée voir le gynéco qui m'a prescrit un médicament. Alors, du coup, je voulais savoir, est-ce que le kyste peut retarder mes règles? Ma deuxième question est, est-ce qu'il y a des chances de tomber enceinte malgré qu'il y a des kystes?
Peut-être déjà une explication, docteur Abdoulaye Diop, sur le fait que Fama ait pu avoir successivement un test positif et négatif. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
C'est possible. Un test peut être positif alors qu'il ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle les faux positifs. Mm-hmm. Comme également un test peut être négatif alors qu'il ne l'est pas. C'est un test, un faux négatif. Donc ça peut être des erreurs du test par rapport à la qualité. Ou bien le test était positif, mais que si l'échographie a été réalisée un peu trop tôt à l'échographie, qu'on ne voit pas encore la grossesse. Parce que l'échographie ne peut voir la grossesse qu'après 2 semaines de retard de règles. Mais le cas le plus fréquent, c'est un faux positif.
Aujourd'hui, Fama, les questions, c'est donc éventuellement sur les kystes et la grossesse, parce que vous souhaitez entamer une grossesse, c'est ça?
Oui.
Et au niveau des kystes, c'est indolore, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de douleur?
Si, j'ai des douleurs et j'ai des retards.
Docteur Abdoulaye Diop, quand il y a ce type de douleur avec présence de kystes, qu'est-ce qu'on peut faire?
Il faudrait faire une échographie pour voir déjà quel est le type de kyste. La plupart des kystes sont bénins, ils se résorbent avec le temps. Voir quel type de kyste c'est. Proposer déjà des médicaments antidouleurs et donner un traitement hormonal pendant environ 1 à 3 mois. Et dans la majorité des cas, le kyste va disparaître sans aucun impact sur la fertilité. Parfois, le kyste peut se compliquer, soit d'une hémorragie interne ou bien d'une torsion de kyste ou bien une rupture de kyste. Et dans ce cas, le traitement sera chirurgical, il faut opérer.
Fama, vous avez vu votre médecin et vous a donné un traitement pour une certaine durée. Est-ce que vous avez prévu de le revoir à la fin du traitement?
Oui, le traitement a duré 3 mois. Ça va terminer le mois prochain. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y retourner parce que ce n'est pas encore fini. Je dois prendre les médicaments pour une durée de 3 mois.
Vous observez quoi par rapport aux médicaments? Ça fonctionne comment?
Bon, jusqu'à présent, je ressens des douleurs au bas-ventre.
Quand vous parlez de médicaments, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, ces médicaments?
Ce sont des comprimés. C'est un traitement pour le kyste, en fait.
Docteur Abdoulaye Diop, prescrire des comprimés pour régler un problème de kyste, de quoi peut-il s'agir?
En général, ce sont des hormones. Ce sont des comprimés œstroprogestatifs, des hormones comme les pilules contraceptives ou bien un autre type d'hormones progestatifs qui vont mettre un peu les ovaires au repos parce que les kystes, c'est quelque part une hyperactivité à l'intérieur de l'ovaire. Donc, ces ovaires seront mis au repos pendant quelques temps, 3 mois en moyenne. Et en général, durant ces 3 mois ou à l'arrivée des règles, le kyste disparaît. Et après, la vie suit son cours.
Pour compléter, docteur Diop, nous avons cette fois sur Facebook une question de Marie du Royaume-Uni qui voudrait comprendre pourquoi il peut y avoir des cas de récidive pour les kystes ou les fibromes, j'imagine après une opération.
Oui, les deux ont tendance à récidiver. La plupart des pathologies gynécologiques, d'ailleurs, que ce soit les kystes, les fibromes, les endométrioses, ont tendance à récidiver. Jusqu'à présent, la médecine, la science ne connaît pas la cause exacte de ces pathologies gynécologiques. On a des hypothèses, on sait que c'est lié un peu à la génétique, c'est héréditaire et autres. Certains traitements hormonaux peuvent être à l'origine de l'apparition de certains kystes. Et ils disparaissent et ils reviennent. Le stress de la vie courante, les perturbations hormonales, les perturbateurs endocriniens peuvent être à l'apparition de ces kystes. Donc, ça récidive régulièrement.
Fama, toutes les questions que vous nous avez posées aujourd'hui, vous allez justement les poser à nouveau à votre gynécologue quand vous allez le voir, justement, dans quelques semaines?
Oui, dans 1 mois.
Dans 1 mois. Est-ce que vous avez fait la liste de vos petites questions au gynéco?
Non, pas encore. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des chances de tomber enceinte malgré qu'il y a des kystes?
Ça veut dire, docteur Diop, que Fama se demande si la présence de kystes, eh bien, ça peut expliquer, par exemple, un problème d'infertilité. Une question, Fama, ça fait combien de temps que vous essayez d'avoir un bébé?
Bon, ça fait 4 mois.
Ah, 4 mois. 4 mois. Oui. Alors là, docteur Diop, je pense savoir ce que vous allez dire à Fama. Je vous écoute.
Oui, dans la plupart des cas, les kystes ne posent pas de problème pour la fertilité. On peut très bien tomber enceinte en ayant des kystes. De temps en temps, certains kystes, surtout lorsqu'ils entraînent des perturbations des règles, oui, vont perturber le cycle menstruel. Et donc, il sera difficile de savoir quelle est la période féconde présumée ou bien même créer des types d'anovulation. C'est-à-dire qu'on ne va pas ovuler à cause de ces kystes-là. Et d'autres kystes vont gêner la qualité de l'ovulation. Par contre, après 4 mois de grossesse, bon, il n'y a pas encore de danger. Et en général, les chances de tomber enceinte sont d'environ 10 à 20% par mois. Et donc, on considère qu'il faut entre 6 et 10 mois avant de tomber enceinte. Au-delà, on peut aller faire un bilan pour voir quel est le problème. Déjà, chez elle, le kyste a été découvert, il est traité, les choses vont certainement rentrer dans l'ordre et Inch'Allah, dans les mois à venir, elle pourra tomber enceinte.
Fama, merci beaucoup pour cette participation. Toujours à Dakar, c'est Nafissa qui a envoyé ce message sur le répondeur de l'émission. Et pour des raisons d'anonymat, sa voix a été modifiée. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Priorité Santé, je m'appelle Nafissa, j'appelle de Dakar et j'ai 37 ans. Je suis également maman d'un garçon de 6 mois. Je suis aussi sous pilule contraceptive, à savoir le Microval, depuis 5 mois et quelques. Et ma question du jour, qui est en rapport avec le thème, est de savoir, est-ce que la pilule à elle seule peut me permettre de ne pas contracter une grossesse surprise? Parce que, pour des vrais, j'ai une phobie de la grossesse. J'ai des grossesses difficiles, si je peux dire. Et ce sont des souvenirs qui me hantent et je ne suis pas encore prête à retomber enceinte. Donc, si, est-ce que la pilule à elle seule, en dehors d'utiliser le préservatif, parce que je ne l'utilise pas, je me limite uniquement à l'utilisation de la pilule. Est-ce qu'à elle seule, cela peut m'éviter de contracter une grossesse surprise? Et merci également de nous donner plus d'explications quant à la pilule, son mécanisme de fonctionnement. Merci à vous et très bonne journée. Merci.
Nafissa de Dakar, donc, qui a besoin d'une contraception, elle a expliqué pourquoi. Elle allaite en ce moment son bébé et elle se pose des questions sur le risque éventuel de grossesse sous pilule contraceptive. En fait, comprendre comment la pilule, comment ça marche, docteur Abdoulaye Diop.
Oui, le risque de grossesse sous pilule contraceptive, comme sous toutes les autres méthodes de contraception modernes, est extrêmement faible, moins de 1 cas sur 1000, selon l'indice de Pearl. Donc, c'est une méthode de contraception qui est très efficace. Le risque de grossesse est très, 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 très faible, à condition, évidemment, de prendre sa pilule régulièrement et de préférence à la même heure. Surtout que la pilule contraceptive de Nafissa est une pilule microdosée, d'une teneur très faible en contraceptif et donc qui n'accepte pas d'oublier un oubli ou bien une prise décalée. Donc il faut vraiment prendre à la même heure tous les jours. Et donc, très peu de risque de grossesse. La pilule fonctionne selon ce qu'on appelle les 3 verrous. Il va verrouiller l'ovulation. Donc, en prenant la pilule tous les jours, la pilule va empêcher qu'il y ait une ovulation, donc empêcher le développement des follicules au niveau des ovaires jusqu'à ce qu'il y ait une ovulation. La pilule va changer la composition de la muqueuse qui est dans l'utérus et qui retiendrait une éventuelle grossesse. Donc, la muqueuse sera impropre à ce qu'on appelle la nidation. Même s'il y avait une ovulation, même s'il y a fécondation, l'œuf ne pourra pas aller s'implanter au niveau de l'utérus pour se développer. Et enfin, la pilule va altérer la qualité de la glaire cervicale au niveau du col utérus. Or, cette glaire cervicale est essentielle pour que les spermatozoïdes puissent avoir la capacité de féconder. Et donc, ce qu'on appelle les 3 verrous. Bloquer l'ovulation, rendre la muqueuse impropre à la nidation et altérer la qualité de l'ovulation. C'est dire que c'est une méthode de contraception assez efficace puisqu'elle agit à 3 niveaux.
Question Facebook d'Yacine du Sénégal qui écrit « J'ai entendu dire que les contraceptions, surtout les pilules et les injections, favorisait le cancer. Est-ce que c'est vrai? Alors là, on est dans la rumeur. Est-ce qu'on est dans les fake news, docteur Diop?
Oui, ça, c'est pire qu'une fake news. C'est totalement faux. Les pilules contraceptives, les méthodes de contraception en général ne donnent pas de cancer. Pas du tout. Il faut simplement savoir que pour certains cancers gynécologiques, notamment qui dépendent des hormones, certaines pilules, notamment les pilules contenant des œstrogènes, peuvent augmenter le risque d'avoir un cancer du sein si et seulement si vous avez déjà le gène du cancer du sein en vous ou dans votre famille. Parce qu'on sait que le cancer du sein, il est héréditaire. Donc les femmes ayant du cancer du sein dans leur famille doivent le préciser à leur gynécologue ou à leur sage-femme qui va éviter de leur prescrire un certain type de pilule ou un certain type de contraception. A contrario, certaines méthodes de contraception, notamment la pilule, protègent même contre l'apparition de certains cancers, notamment le cancer de l'ovaire. Donc certaines pilules contraceptives vont vous protéger sur le risque d'avoir un cancer de l'ovaire. Donc cette rumeur est absolument et totalement fausse.
Ça sert aussi à sa priorité santé, lutter contre la désinformation en santé. Direction le Niger, Niamey en ligne avec nous, c'est Tatou. Tatou, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez 36 ans, vous avez une fille qui est âgée de 18 ans. Et en préparant l'émission, vous avez expliqué avoir des problèmes de règles depuis l'adolescence. Expliquez-nous ce qui se passe, s'il vous plaît.
Bon, au fait, ce qui se passe, c'est que c'est toujours des règles irrégulières. Ouais. Ils ne viennent pas à chaque mois. Ils peuvent aller de 6 mois jusqu'à 1 an sans les voir, quoi.
Sans voir les règles. Mais... Et vous avez pris des traitements pour ça?
Oui, j'ai essayé de faire le traitement, c'était en 2019.
Oui.
Donc, je me suis dit qu'avec l'âge, j'ai eu un peu peur. Et puis, je suis allée me faire consulter chez une gynécologue. Elle m'a fait des traitements, bon, elle m'a fait aussi des examens. Paraît-il qu'il y a des petites kystes dans mon ventre. Elle m'a donné des traitements pour les éliminer, au fait. Mais pour revenir un peu en arrière, depuis 2014, j'étais en Allemagne. Donc, je me suis fait consulter. Mmh. Et la gynécologue a aussi remarqué ces petites kystes-là. Elle m'a dit que les kystes ne sont pas un danger, quoi, que je peux rester avec ça.
Des kystes qui n'ont pas de mauvaises conséquences pour votre santé, en dehors de ces kystes, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au niveau de votre état général? J'ai une question en particulier sur votre poids. Vous en êtes où par rapport au poids aujourd'hui, Tatou?
Oui, aujourd'hui, bon, je pesais 100 kilos pour 1,66 m.
Est-ce que le médecin a parlé de l'impact du poids sur votre, justement, sur votre santé féminine?
Non, mais c'est moi-même qui ai remarqué ça parce que j'étais en surpoids dans les années 2014 jusqu'à 2020. Donc, j'étais en surpoids, j'étais dans les 113 kilos. Donc, en 2021, j'ai commencé à pratiquer le sport pour un peu perdre du poids. Donc, c'est à ce moment-là que les cycles ont commencé à devenir réguliers.
Votre gynécologue, elle vous a parlé d'une ménopause précoce. Est-ce qu'elle vous a fait passer des examens?
Oui, bien sûr. Mais elle n'a rien trouvé d'anormal, au fait.
Aujourd'hui, c'est quoi les questions que vous vous posez, Tatou?
Voilà, les questions, c'est que est-ce que c'est possible d'avoir un enfant? Est-ce que c'est possible de tomber enceinte avec un problème pareil, le fait de ne pas avoir ses règles chaque mois? Et ma deuxième question, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des femmes qui sont naturellement... comme ça, ils ne voient pas leurs règles chaque mois. Est-ce que c'est naturel?
Est-ce que c'est normal d'avoir des règles irrégulières, si j'ai bien compris? Moi, j'ai une question pour vous, Tatou. J'ai compris que vous souhaitez avoir un deuxième enfant, 18 ans après la première fille. Est-ce que votre compagnon actuel a déjà eu des enfants?
Oui, bien sûr, il a des enfants.
Il a déjà des enfants. C'est une question importante parce que, évidemment, le problème pour avoir un bébé, ça peut être du côté de la maman ou du papa, on ne sait pas. Alors, question de Tatou, docteur Abdoulaye Diop, sur le fait d'avoir un cycle irrégulier. Dans le cas de Tatou, ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'on lui ait parlé d'une ménopause précoce sans faire des examens.
C'est un peu étonnant. Peut-être que c'était une hypothèse diagnostique qui a été évoquée peut-être dans le cadre d'une consultation. Ça a été une ménopause précoce, celle irréversible et qui ne verrait plus ses règles. Donc, manifestement, ce n'était pas ça.
Donc, ce n'était pas ça. Pour l'autre question de Tatou sur la difficulté à concevoir, est-ce qu'il peut y avoir un impact du surpoids dans, précisément, la fécondité d'une femme?
Oui, il y a des études qui montrent qu'en cas de surpoids, le surpoids peut avoir un impact sur la fertilité, notamment en bloquant l'ovulation, surtout si c'est associé à la présence de petits kystes à l'intérieur des ovaires, comme semble décrire Tatou. Et donc, non seulement il va y avoir des cycles irréguliers, mais il va aussi avoir des cycles dits anovulatoires, c'est-à-dire des cycles durant lesquels la fascia ne va pas ovuler. Donc, si on n'ovule pas, on ne peut pas tomber enceinte. Dans la prise en charge de ce type de kystes-là, il sera préconisé non seulement des médicaments pour booster, relancer, forcer l'ovulation, mais il sera aussi proposé des mesures hygiéno-diététiques telles que la perte de poids et la diminution de la quantité de sucre, qui est aussi un autre facteur qui non seulement va donner du poids, mais aussi va bloquer l'ovulation.
Tatou, est-ce que vous allez reprendre rendez-vous chez une gynécologue pour parler de tout cela?
Oui, bien sûr. Comme j'ai toujours son contact, je pense vraiment commencer encore à faire d'autres examens pour voir si tout va bien, si est-ce que je peux tomber enceinte.
C'est une de vos amies qui vous a passé son numéro et c'est un bon médecin d'après elle, c'est ça?
Oui, et d'après elle, c'est un bon médecin parce qu'elle lui a fait un traitement là-bas.
Oui.
Et elle a eu des jumeaux. Ça fait pas longtemps.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Tatou, pour votre appel. On a une question Facebook de Nina du Gabon. Quelles sont les causes et les traitements des bartholinites? C'est quoi précisément, docteur Diop?
La Bartholini, c'est une infection de la glande de Bartholin. La glande de Bartholin est une glande qui est située à l'intérieur des grandes lèvres chez la femme et qui est responsable de la lubrification. Lorsqu'on est excité, c'est la glande de Bartholin qui va sécréter un liquide gluant qui va permettre une pénétration sans douleur. Et donc, cette glande, de temps en temps, peut s'infecter s'il y a une infection locale au niveau vaginal. L'infection pourrait toucher la glande et donner une bartholinite qui va se manifester par de grosses douleurs, une tuméfaction au niveau de la lèvre et parfois il y a un peu de pus qui va sortir.
Alors on va partir maintenant pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
C'est Rose qui est en ligne avec nous. Rose, bonjour.
Bonjour.
Alors Rose, vous êtes âgée de 40 ans. C'est suite à un examen chez le gynécologue que vous avez décidé de nous appeler. Expliquez-nous pourquoi, s'il vous plaît.
J'ai fait un fautif de contrôle et on a détecté un fautif cervico-vaginal condylomateux. Mon gynécologue a prescrit un test de type de HPV. J'ai pas trop compris pourquoi, mais le test de type de HPV est revenu avec un résultat de absence de papillomavirus avec tous les termes qui vont avec. Conclusion, je n'ai pas compris pourquoi on teste le type de HPV. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est qu'un fautif cervico-vaginal condylomateux. Est-ce que ça indique une présence de HPV ou alors c'est juste des lésions qui n'ont rien à voir avec un HPV?
Quand vous êtes allé chez le médecin, vous avez eu ce diagnostic. Est-ce que vous lui avez posé des questions ou pas?
Oui, j'ai posé des questions. Je suis rentrée ce jour un peu perturbée parce qu'elle m'a demandé un test de type de HPV.
Oui.
En fait, je comprends pas pourquoi HPV, pourquoi... En fait, je suis un peu perturbée quand je relis les résultats.
Je comprends bien, mais c'est tout à fait normal de se poser des questions. Docteur Diop va essayer de vous rassurer et surtout de vous expliquer tout ça. Ce qu'on peut dire déjà, docteur Abdoulaye Diop, c'est que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont positifs au HPV sans être du tout malades.
Oui, 80% des jeunes entre 25 et 35 ans ont du HPV en eux. C'est dire que c'est un virus, vous ne pas dire que c'est le virus le plus répandu dans la sphère génitale, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
Ça veut dire que beaucoup de gens sont porteurs, ne le savent pas, et ils peuvent s'inquiéter quand ils voient un résultat positif, d'où le besoin absolu d'expliquer. Il y a une autre explication que n'a pas une autre auditrice, Rose, c'est le frottis cervico-vaginal condylomateux. C'est vrai que ça fait pas mal de mots compliqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, le frottis cervico-vaginal est une analyse, petite analyse qu'on fait au niveau du col de l'utérus de la femme pour détecter justement des micro-lésions, des petites lésions et pour voir quelles sont la cause de ces lésions. Et donc, le résultat de madame a montré des condylomes. Les condylomes, encore appelés des verrues génitales. Pour revenir un peu en arrière, le virus qui donne les condylomes s'appelle le HPV, le Human Papillomavirus. Il en existe une quarantaine. Ces HPV sont divisés en deux grands groupes. Le groupe des HPV ou des papillomavirus oncogènes, c'est-à-dire oncogènes qui veut dire qu'ils peuvent donner un cancer, et ceux qui sont non-oncogènes. Ceux qui sont non-oncogènes, ça veut dire qu'ils ne donnent pas de cancer. Et donc, c'est justement ce groupe non-oncogène qui donne des verrues génitales, appelées encore condylomes. Et donc, chez elle, le frottis a montré la présence de condylomes, de verrues génitales au niveau du col. Ce n'est pas seulement au niveau de la vulve, au niveau des parties génitales externes où on trouve les verrues, on peut en retrouver au niveau du col. Et donc, chez elle, justement, on en a retrouvé là-bas pendant le frottis. Donc ça veut dire qu'elle a été en contact avec un HPV probablement non oncogène. Maintenant, puisque c'est des virus cousins qui souvent sont ensemble, il est nécessaire justement de faire un second test pour rechercher le type de HPV qui a été responsable de cette lésion qui a été retrouvée.
Donc Rose, si vous me permettez Rose, pour synthétiser, ça veut dire que le médecin a fait vraiment les bons examens et qu'aujourd'hui vous pouvez être pleinement rassurée.
Oui. C'est pas cancérigène, je crois que c'est ce qu'elle m'a dit.
C'est ce qu'elle vous a expliqué. Ça veut dire aujourd'hui, docteur Diop, un suivi régulier pour Rose et elle est en bonne santé, c'est ça?
Exactement. Donc, si encore on n'a pas détecté de suivi de HPV 16 et de HPV 18, qui sont les deux HPV qui sont responsables du cancer du col de l'utérus, il n'y a pas de danger. C'est juste des lésions disgracieuses qu'elle a. Et avec un traitement assez simple, ces lésions condylomateuses là vont disparaître. Et après, voilà, il n'y a pas de danger.
Voilà pour ce message, pour rassurer Rose. Un grand merci, bonne journée. C'est toujours à Yaoundé qu'on retrouve maintenant Cynthia. Cynthia, bonjour.
Bonjour madame.
Alors, vous avez 33 ans Cynthia. Actuellement, vous êtes enceinte de votre deuxième enfant, un peu plus de 5 mois de grossesse. Expliquez-nous s'il vous plaît les causes de votre appel.
Depuis 3 ans, j'ai des problèmes de lévure. Ça coule sur mon vagin avec les pertes blanches et épais. Dès que je pars à l'hôpital voir le gynécologue, il me fait faire le PCV et... Après, je prends un traitement. Après, au bout de 7 mois, ça recommence encore.
Donc le problème aujourd'hui, c'est la récidive de cette candidose. Est-ce que votre époux a également consulté ou pas ?
Non, non, il n'est pas allé voir le médecin.
Alors la question, docteur Abdoulaye Diop, comment ça se fait que chez Cynthia, cette candidose, elle revienne régulièrement ?
Oui, la candidose, c'est l'une des infections génitales les plus fréquentes et les plus banales, heureusement. En matière d'infections génitales, les plus bruyantes sont les moins graves et les moins bruyantes sont les plus graves. Donc la candidose, ce sont des champignons et ils ont tendance à récidiver. Souvent, les patientes qui ont une récidive de la candidose, c'est parce qu'elles se lavent trop, elles font trop de toilettes intimes. Le rythme recommandé pour faire des toilettes intimes, c'est une fois par semaine. Avec du savon ordinaire, de préférence, ou avec n'importe quel gel intime, à condition de le diluer. Et donc, les patients qui ont tendance à faire des gels intimes, ou bien des salutaires, se laver les parties génitales tous les jours avec du savon, ou bien celles qui vont mettre leur linge intime à sécher dans la salle de bain, ou bien qui ne les repassent pas, ou bien qui portent parfois des sous-vêtements trop serrés, surtout quand il fait chaud, ou en nylon et autres, vont toujours avoir des mycoses à répétition. Il faudrait donc traiter et changer d'habitude de vie, arrêter les bains intimes intempestifs, changer de sous-vêtements, privilégier le coton et les repasser ou les mettre au soleil régulièrement. Et là, les mycoses vont s'espacer, voire disparaître.
Cynthia, est-ce que vous vous êtes reconnue dans ce que vient de décrire le docteur Diop, que ce soit en matière de toilettes intimes ou même en termes de dessous ?
Oui, oui, je me suis reconnue, madame.
Maintenant, c'est vrai que vous êtes enceinte d'un bébé, docteur Diop. Est-ce que ça peut avoir des conséquences pour le bébé d'avoir des candidoses au moment de la naissance ?
Non, pas vraiment. Les candidoses ne sont pas des infections dangereuses. Ça ne pose pas de problème pour l'accouchement, ça ne pose pas de problème pour le bébé. C'est vraiment très bruyant avec des démangeaisons, des pertes qui ressemblent un peu à du lait caillé, mais il n'y a pas vraiment de danger. La grossesse, par contre, est un facteur favorisant. Lorsqu'on tombe enceinte, l'immunodépression liée à la grossesse peut favoriser justement l'apparition de ces candidoses, de ces champignons.
Et on remercie beaucoup Cynthia pour son appel. On va partir maintenant pour l'océan Indien. On a une auditrice de Madagascar qui nous a envoyé ce message sur le répondeur de l'émission. C'est Manji, nous l'écoutons.
Bonjour Priorité Santé, je m'appelle Manji, j'ai 25 ans et je viens de Madagascar, de la ville de Fianarantsoa. J'ai un petit problème qui me met un peu mal à l'aise il y a quelques semaines. En fait, j'ai des boutons qui apparaissent sur ma partie intime, plus précisément sur ma vulve, après l'utilisation d'une crème dépilatoire. Auparavant, j'ai utilisé des rasoirs. Et les rasoirs ont laissé une ou deux boutons 3 ou 2 jours après le rasage. Et cela disparaissait au bout d'environ une semaine. Mais il y a quelques semaines, j'ai utilisé une crème dépilatoire. Et ensuite, des dizaines de boutons sont apparus sur ma vulve. Ils ne me démangent pas, mais c'est pas très beau à voir. Et j'ai décidé de ne plus utiliser cette crème sur ma partie intime. Et ma question, c'est que qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de ces boutons, parce que c'est vraiment gênant et que je ne vois pas que mon partenaire les voit. Et à part le rasage et l'épilation, est-ce qu'il existe un autre moyen d'enlever les poils sur la partie intime ?
Alors, docteur Abdoulaye Diop, question à un gynécologue, ça relève aussi pas mal de la dermatologie. On peut dire déjà qu'une première bonne mesure de Manji, c'est d'avoir arrêté cette crème dépilatoire sur son intimité.
Oui, si on utilise une crème dépilatoire et qu'on se retrouve à avoir des boutons ou des démangeaisons, il faut arrêter. Ça veut dire que le corps ne supporte pas. Ou soit il y a une allergie ou bien il y a une hypersensibilité de la peau. Donc le premier réflexe est d'arrêter.
Donc ça veut dire pour l'autre conseil, elle fait du rasage après. Est-ce que vous aussi en consultation, il vous arrive d'avoir des patientes qui présentent ce genre de problème ?
Oui, c'est souvent les patients nous posent la question ou viennent pour ce motif de constatation. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le rasage n'est pas recommandé sur le plan médical. L'OMS ne recommande pas le rasage des parties intimes parce que c'est à l'origine justement de micro-lésions sur la peau intime qui est une peau plutôt fragile et donc une porte d'entrée pour les microbes, d'où l'apparition de boutons, de l'apparition d'abcès, de l'apparition de ganglions au niveau des parties intimes. Donc le rasage n'est pas médicalement recommandé. C'est un phénomène de mode, c'est un phénomène de société. Maintenant, si on veut, pour des raisons personnelles, esthétiques, se raser, il y a des précautions à prendre. Si on utilise un rasoir, il faudrait déjà mettre une mousse à raser ou bien mettre un savon un peu pour humidifier la zone intime avant de raser. Il faudrait raser dans le sens du poil, dans le haut vers le bas, et ne pas raser dans tous les sens, ce qui pourrait entraîner l'incurvation d'un poil et donc donner un poil incarné qui va être à l'origine d'un bouton, comme elle a pu le constater. Et après le rasage, il est conseillé de mettre une pommade aftershave pour apaiser la peau irritée et surtout surtout tuer les petits microbes éventuels qui seront sur la peau et qui pourraient utiliser les micro-lésions de la peau et créer un bouton ou un abcès. Les autres méthodes de rasage, la crème dépilatoire, à condition évidemment d'avoir une crème adaptée. Toujours utiliser cette crème sur une autre partie de la peau, telle que la jambe ou le bras avant, pour faire un petit test. Si sur cette peau, la crème dépilatoire ne crée pas de problème, vous pouvez essayer sur vos parties intimes, mais il faut juste d'abord tester. Sinon, il faut essayer les autres méthodes, telles que l'épilation au laser ou bien la tondeuse qui n'est pas très traumatisante. Somme toute, le rasage reste non recommandé par le personnel médical.
Voilà tous ces conseils. Un grand merci à vous, hein, docteur Abdoulaye Diop, pour toutes ces réponses aujourd'hui encore pour les auditrices de Priorité Santé. On se dit au revoir et bien sûr à très bientôt. Hein.
Ben merci, c'est toujours un plaisir de faire une émission avec vous, Caroline. Et merci à toute l'équipe de Priorité Santé, aussi bien à Dakar qu'à Paris.
Avant de se dire tout à fait au revoir, Ibidio Sound Machine sur RFI, avec ce titre, Got to be who you are. Restez tel que vous êtes. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Louise Kaledek, Talimpo, Damien Roucou, Didier Bleu, Alassane Bireba à Dakar pour la réalisation et ici à Paris également, Pauline Berthélémy et Laurent Philippot. Lundi, on va revenir sur les avancées de la recherche. 4 ans après le début de la pandémie de Covid, quels sont les enseignements en termes de surveillance des virus, de stratégie de vaccination, quelles applications possibles en cas d'émergence d'un nouveau virus. Des chercheurs qui reviendront sur cette expérience Covid dans Priorité Santé. Ce sera lundi 9h10, temps universel.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.